Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité littéraire avec mes chers Olivia de Lamberterie, Duel et Patricia Martin des petits matins du week-end de France Inter avec le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue française et le non moins respectable Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. Il sera question ce soir enfin du grand amour avec Edna O'Brien, Alexis Génie, Benoît Groult et Paul Guimard, mais aussi de la fin du monde avec Don DeLillo et de plongée sous-marine avec David Vann. Dans le courrier de la semaine, à propos de combats et métamorphoses d'une femme au seuil, Madeleine Vautier considère que Édouard Louis est le Annie Ernaux d'aujourd'hui, tant sur les thèmes abordés que par sa façon de les traiter. Il écrit des choses qui dérangent sur la misère matérielle et sociale. N'oublions pas qu'il a seulement 28 ans et qu'il n'est pas encore au fait ni de sa maturité littéraire, ni de sa maturité d'adulte. Et Daniel Jeunehomme s'adresse aux critiques du masque qui ont démoli ce livre. Si vous aviez vécu dans un milieu comparable à celui de l'auteur, votre jugement aurait été différent. Admirez la métamorphose de ce garçon au lieu de jalouser sa réussite. À propos de télé-réalité d'Aurélien Bélanger chez Gallimard, Aude, qui est urbaniste, qui a 33 ans, qui habite les Lilas, nous écrit « Je vous adore, tous autant que vous êtes, mais de grâce, détendez-vous sur la pop culture. Le Loft 1 possède sans doute plus de profondeur que les romans d'Aurélien Bélanger. Le Loft 1 ramène à ce parfum d'une jeunesse black, blanc, beurre, au son du glas des années 90, prête à mélanger les classes sociales et les fluides corporels devant la France entière. J'ai 20 ans après toujours autant d'entrain à traquer les scènes censurées du Loft qu'à chercher des inédits de Huysmans au marché du livre Georges Brassens. » Coralie Bru, 35 ans, lance un cri « Olivia, Olivia, revenez et vite !» pour équilibrer un peu ses critiques. Quelle tristesse et quelle frustration de les entendre parler avec un tel mépris de Norman People de Sally Rooney. Un roman très marquant, plein de détails savoureux, où les personnages sans se posséder sont liés à vie. Ça, j'aime bien la formule. Et oui, nous dit Coralie, je suis d'accord avec Patricia Martin. Les scènes de sexe sont très bien écrites.
Ah oui.
Voilà, donc merci Patricia et Olivia, tu as manqué à Coralie Bru. Cher masque, nous...
Il m'a manqué aussi.
Cher masque, nous écrit Nicolas Davenet de Normandie. Merci pour vos conseils et surtout pour Billy Wilder et moi de Jonathan Coe. Après sa lecture qui fut un vrai voyage en ces temps de confinement, j'ai regardé Fedora et ne peux que saluer la rencontre entre le réalisateur et l'écrivain. Tout s'éclaire. Fedora Wilder, c'est un homme qui fait à sa mère le plus beau des adieux. Enfin, Marie Despointes d'Aix-en-Provence exprime un regret. Comme votre auditeur dont Jérôme Garcin a lu la lettre, je regrette que vous ne parliez pas davantage des livres jeunesse. Et ça tombe bien, j'ai un petit bijou à vous recommander. Je ne sais pas si vous l'avez lu. L'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace. Joli titre, hein ?
Oui, pas mal.
C'est Thomas Gerbault, c'est à la joie de lire. Il aborde le thème de la souffrance animale, mais sans violence, avec délicatesse et humour. En espérant, cher masque, que vous n'avez pas fait souffrir les pauvres oiseaux à qui vous avez arraché vos plumes. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà pour le courrier. Et on commence avec Le silence, c'est le bref, 110 pages. Je sais que vous en avez marre des gros livres. Là, cette semaine, c'est bien, j'étais sobre.
Oui.
Hein. Donc le bref et nouveau roman de l'américain Don DeLillo, traduit par Sabrina Duncan aux éditions Actes Sud, une fable visionnaire où l'auteur d'Americana, aujourd'hui âgé de 84 ans, nous promet la fin du monde, c'est l'an prochain, hein, c'est en 2022, un dimanche soir à Manhattan, cinq amis, deux couples, un étudiant, doivent se réunir, non pas pour écouter le masque et la plume, mais pour regarder à la télé le Super Bowl, la finale du championnat de foot américain que ne manque jamais, je sais, chaque année, Michel Crépu. Et soudain, c'est la panne, un blackout général, le Big Bug. L'écran devient noir, toutes les connexions numériques sont coupées et l'avion venu de Paris, c'est le début du livre, qui doit amener à New York un des couples amis est pris dans de violentes turbulences et s'enflamme en atterrissant. En épigraphe, Don DeLillo a placé cette phrase d'Einstein, « J'ignore de quelles armes usera la Troisième Guerre mondiale, mais la Quatrième se fera à coups de bâtons et de pierres. » On pourrait presque ajouter aussi « et de pandémie ». Petit livre, gros choc, non, Patricia ?
Gros choc, et d'ailleurs c'est visionnaire, puisque quand tu parles de gens qui sont dans un aéroport, qui portent un masque, fou, hein, d'un monde à l'arrêt,
moi, j'y ai pensé tout le temps.
Voilà. Incroyable.
Il a bien écrit avant. Hein,
il a écrit bien avant. Et cette phrase d'Einstein, qui d'ailleurs court tout le long du livre, je parle d'Einstein, pas de la phrase, mais elle fait absolument froid dans le dos. Moi, ça m'a fait penser aussi, à cause peut-être de l'avion, mais à l'anomalie. Il y a un peu un côté comme ça, sur l'incompréhension.
Entre Paris et New York aussi.
Voilà, et l'impression que tout à coup, tout vous échappe, et que c'est un retour à l'archaïsme complet, une défaite de la parole. Le langage tout à coup devient vide et il y a un bruit de fond, exactement comme dans d'ailleurs son premier livre traduit en français, ça a été ça. Là, c'était un bruit de fond médiatique qui était incessant. Il y a une scène dans l'avion où le mari d'un des couples, puisqu'il y a deux couples qui sont en scène, mais il y a donc ceux qui viennent de Paris à New York en avion.
Oui, parce que c'est un couple qui vient de Paris pour aller rejoindre le couple, voilà, à Manhattan. Il y aura en plus un étudiant pour cette fameuse soirée.
Voilà, mais celui qui est dans l'avion, il se gargarise de mots, il n'arrête pas de parler, et c'est d'un vide abyssal. C'est un monde absurde, c'est un monde inquiétant, et puis rien de ce qui se passe n'est visible. Donc on ne sait pas d'où ça va venir, mais quand même, le danger est omniprésent. Je trouve que c'est un livre aussi très physique, qui moi m'a provoqué des sensations, beaucoup de sensations d'angoisse absolument terrible.
La panne proprement dite, elle est probable, hein, elle pourrait se passer. Elle est terrifiante.
Et hein, on y pense à chaque fois qu'on prend l'avion. Non, c'est extraordinaire. Et en plus, ça a le mérite effectivement,
voilà, c'est très
d'être
court,
resserré. Et il va à l'essentiel, quoi.
Michel,
moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Ça m'a rappelé bizarrement, mais en fait pas du tout bizarrement, 2001, Odyssée de l'espace, qui serait remplacé par des Américains moyens dont la vie effectivement consiste à regarder des matchs de foot et éventuellement deux, trois...
C'est un peu plus que moyen quand même. Hein.
C'est un peu plus que moyen.
La vie à Manhattan,
c'est pas... Mais le caractère complètement aérolithique de ce livre est dingue. Enfin, j'ai pas lu ça depuis... Je ne crois pas avoir jamais lu une petite chose en quantité aussi chargée
et dense,
en intensité. Ouais. Et Don DeLillo, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu... Il faut dire qu'il a été aussi un petit peu du temps de la gloire de Philip Roth. Il était un peu dans l'ombre.
Americana ou Outre-Monde ont été
marqués.
Hein.
Mais il était lui-même. Je me souviens de l'avoir rencontré une fois. Il était très sombre. Il était vraiment.
C'était vous avez dû vous entendre.
Difficile de parler avec lui. Et là, j'ai retrouvé dans cette petite bombe cette intensité que j'avais ressentie il y a bien des années.
Et puis, je rappelle son âge, 84 ans, il a du nerf, cet homme âgé, Olivia.
Oui, moi, il y avait un long chapitre sur l'avion dans les mémoires de Waters qui m'avait redonné envie de prendre l'avion. Et là, de nouveau, qui était très très drôle. Là, de nouveau, c'est comme l'anomalie. On peut se réjouir de ne plus prendre l'avion, tant ça fait peur. On dirait une sorte de film catastrophe écrit par Beckett, en fait.
Oui, c'est Kubrick plus Beckett.
Mais oui, c'est quand même très intéressant. Parce que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'image ? Quand il y a cet écran noir. Donc, comme tu dis, Patricia, il y a la parole, mais la parole qui tourne à vide, parce que finalement, on n'arrête pas de dire que la technologie sépare, mais quand il n'y a plus de technologie, les gens ne se retrouvent pas non plus, parce que chacun parle tout seul. Alors, si un jour cela arrive, j'espère que je ne serai pas confinée, parce que c'est aussi une histoire de confinement avec ce professeur de physique obsédé par Einstein. En revanche, il y a une chose dans ce livre sublime, qui ne fait pas peur, c'est lorsque le premier couple est rescapé de ce crash d'avion. Ils arrivent, c'est la panique dans l'aéroport, ils doivent faire la queue pour les formalités administratives. Et elle dit à son mari « mais d'abord ». Juste ces deux mots. Et lui, il dit « mais d'abord ». Et là, ils vont s'enfermer et ils font l'amour. Ça dure une demi-page. Et je pense que tout ce qui relie les gens est dans cette demi-page-là. J'ai trouvé ça, mais
tu as tellement
bouleversant.
Raison que moi, j'aurais titré ce livre plutôt que Le silence.
Ouais.
C'est banal, mais d'abord.
Mais d'abord, juste ça.
Arnaud.
Oui, Don DeLillo nous fait le coup de la panne, mais ça marche. Hein. Y a quelque chose quand même... Il y a ce côté, effectivement, hein, c'est-à-dire que c'est pas, d'ailleurs, il y a deux scènes de sexe, on va dire. Hein, il y en a une deuxième ensuite. Il y a quand même le 11 septembre aussi, quand même en filigrane dans cette histoire, et qui avait, où on sait que au 11 septembre, les gens ont beaucoup fait l'amour. Hein. Mm-hmm. Et en même temps, je trouve
doux,
moi
quoi.
Quand même une chose que vous n'avez pas dite, c'est qu'il y a quand même dans ce livre. Alors il a quand même 84 ans, Don DeLillo. Il y a entre le titre. La dernière phrase, puis il fixa l'écran noir, il y a quand même quelque chose d'un peu testamentaire, on a l'impression hein, quand même, on se dit, là ça pourrait bien être le dernier livre, malheureusement de Don DeLillo, enfin en tout cas il a quelque chose d'une stèle aussi, dans son apparence hein, c'est peu de mots et ça fait un petit peu froid dans le dos et en même temps, moi j'ai toujours pensé j'ai adoré les romans de Don DeLillo, je me souviens à Mao 2 je veux dire, c'est des chiens Galeux, c'est des choses que j'ai adorées. J'ai toujours pensé que c'était un écrivain comique, justement, tu disais sombre, mais c'est un peu comme Kafka.
Mais Beckett était très drôle. Hein.
Mais surtout, c'est Kafka. Kafka rigolait beaucoup en lisant ses textes à ses amis. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on n'a pas considéré Kafka comme un écrivain comique. J'ai un peu l'impression qu'il y a la même ambiguïté avec Don DeLillo et qu'effectivement, il y a quelque chose. Mais dans ce livre-là encore, il y a quelque chose de profondément drôle. Le début, mais quand même, oui. Avec le rapport au smartphone, etc., c'est très bien.
Une ironie abyssale dans ce livre.
Oui, c'est incroyable. Donc voilà, c'est à la fois, on a l'impression que c'est un livre testamentaire et en même temps d'un très grand comique.
Et puis, je trouve que c'est pas vraiment un livre sur la peur, mais sur le désarroi. Parce que moi, tout le livre, je me suis posé la question, finalement, si ça arrivait, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on souhaite ? L'écran noir et la fin de...
Ne pas voir le Super Bowl, ça m'aide évidemment, mais ne plus pouvoir écouter Le Masque et la Plume, non, ça m'embête.
Oh, bah bien sûr, tout.
Le silence, c'est bien de commencer l'émission avec un livre qu'on conseille, hein. C'est pas toujours le cas. Le silence est donc le nouveau roman de Don DeLillo chez Actes Sud. Mais alors, en revanche, il est bref, donc ça veut dire que si vous le prenez en avion, c'est un vol intérieur, hein. on peut difficilement aller.
Oh, mais
plus
c'est
loin.
Pas bon pour le bilan carbone, les vols intérieurs.
Ah, bah oui, mais comme ça se passe en avion, c'est pour ça que
c'est très bon de le lire en avion, quand même. Oui.
Allez, La beauté dure toujours. Quel titre, c'est chez Gallimard, le nouveau roman d'Alexis Génie, prix Goncourt 2011 pour l'art français de la guerre. Imaginez donc un romancier quinquagénaire, désabusé, bougon, très exaspéré par le culte que l'époque voue à un autre écrivain qui ressemble follement à Michel Houellebecq, chez qui je cite « L'amour est un naufrage avant même de commencer ». Au contraire, notre romancier, enfin celui d'Alexis Génie, veut croire qu'on peut encore écrire sur le grand amour et même le vivre. Il s'inspire donc d'un couple, d'amis, Felice, une avocate, Noé, un dessinateur, qui sont ensemble depuis 12 ans. Et ils racontent leur histoire à Paris, je cite « Ville de cynique où personne ne croit en rien, de peur de se faire avoir. Ça se passe pendant un été caniculaire, secoué par des manifs de gilets jaunes, même l'été. Et il décrit leur amour érotico-mystique, ça revient de manière régulière dans le livre, en s'inspirant du cantique des cantiques, pourquoi pas. Je voudrais savoir, écrit Alexis Génie, pourquoi deux personnes peuvent rester côte à côte, se frotter longuement l'une à l'autre et y prendre plaisir et continuer pendant des années. Cela dit, la question, c'est est-ce que les couples heureux ont une histoire ? Olivia ?
Les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais l'amour heureux n'en a encore moins. Et c'est pour ça que je trouve le projet initial vraiment très intéressant de s'intéresser...
Disons osé.
Intéressant, moi je trouve. J'adore l'idée de s'intéresser à l'amour dans sa banalité, qui n'est ni la rencontre ni la rupture. J'aime beaucoup aussi ce parti pris quand même assez romanesque et romantique, de faire un roman qui serait vraiment anti-Houellebecquien ou anti-Frédéric Becbédé aussi, qu'on devine dans un dîner littéraire assez drôle, je trouve, au début du livre. Après, le projet n'est pas tout à fait réussi. Sans doute parce que d'abord, il y a une très grande distance. On a vraiment l'impression que Alexis Génie le fait comme une sorte d'explorateur, comme cette émission, vous savez, où on part en terre inconnue, là. Que vraiment, c'est un terrain pour lui tout à fait étrange. Et je trouve que la mécanique à trois voix ne marche pas très bien. Voilà. Parce qu'il y a d'un côté le narrateur
qui est Alexis Génie, évidemment,
explorer ce mystère,
et le couple
raconte donc l'histoire de ce couple et de son ami.
Je suis pas sûr non plus que les ponctuations mystico-érotiques soient
tout à fait indispensables. Pourquoi pas, comme tu disais, mais moi je dirais pourquoi. Et c'est un livre qui devrait être animé par une sorte de flamme. Et je trouve que c'est un livre qui reste très froid. Et puis il y a parfois des fulgurances. Voilà. Vraiment, on a l'impression qu'il est presque dérangé par son objet, Alexis Génie. Et puis tout d'un coup, il y a une belle chose qui fait qu'on lui pardonne. Par exemple, la femme, parce que je trouve que, bizarrement, cet homme étranger à l'amour, c'est la femme qui parle le plus juste.
Felice.
Felice. Et
elle
Felice, elle est sans arrêt dessinée par son mari. Et un jour, elle lui dit, mais en fait, je ne me reconnais pas dans le miroir, mais je me reconnais dans tes dessins. Mais est-ce que je suis aussi belle que ça? Et lui, il lui répond, non. Il lui dit, j'invente ta beauté. Et elle est furieuse, elle lui dit, quand même, tu aurais pu me mentir.
Bah, je comprends.
Oui. Mais non, mais moi j'ai trouvé que finalement, la définition de l'amour qui dure, peut-être c'est ça, c'est d'inventer la beauté de l'autre, et ça m'a plu.
Arnaud.
J'ai à peu près tout oublié de l'art français de la guerre, son premier roman, qui avait eu donc le prix Goncourt. Je me souviens que j'avais dit...
Tu en avais dit beaucoup de mal au Masque et la Plume.
Beaucoup de mal, effectivement, mais je me souviens, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il y avait justement le thème du dessin déjà. Mm-hmm. Il y avait un dessinateur, et les passages les plus réussis du livre concernaient le dessin. Et on retrouve donc là cette importance de ce personnage de dessinateur. Et quelque chose d'étrange chez Alexis Génie, dans sa manière de penser, c'est qu'on a l'impression qu'il préfère le dessin à l'écriture. Le langage, pour lui, est tissé de mensonges. C'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'écrit le fameux narrateur, l'écrivain, donc. Et donc, il y a ce rapport, comme ça, malheureux à son propre objet, qui est l'écriture, la littérature, et alors qu'il parle de quelqu'un qui est bien heureux dans son rapport à son objet, qui est le dessin. Et je trouve que tout le livre est comme ça, c'est-à-dire que c'est un livre malheureux de soi. Non mais c'est terrible, quoi. Le type est écrivain, d'abord il jalouse ceux qui réussissent, Houellebecq en particulier.
Non, il ne le jalouse pas.
Ah si.
Il déteste l'idée que Houellebecq se fait de l'amour, c'est ça qui est très... Voilà.
Oui, mais enfin,
et que la société se fait de l'amour.
Il jalouse aussi sa réussite. C'est très clairement.
Tous les écrivains jalousent la réussite
de Belle du Seigneur. Il parle d'Anna Karénine.
Il y a ce rapport-là, et donc il veut parler de l'amour, mais finalement, il parle quand même très souvent de son contraire, qui est d'une forme de haine. Il y a des belles choses, la page, à mon avis, sur Belle du Seigneur, elle est formidable.
Oh, c'est génial.
Les pages sur les gilets jaunes sont vraiment... Parce que c'est intéressant, c'est que ce sont les gilets jaunes vus par des bourgeois, et pour une fois, par des bourgeois solidaires des gilets jaunes. Ça, c'est un point de vue qu'on n'avait pas encore vu, et qui est quand même un petit peu intéressant pour le coup. Donc il y a des belles choses, mais on a l'impression que c'est raconté par quelqu'un qui veut parler d'amour, qui veut parler de baiser, d'érotisme, mais qui a des aigreurs d'estomac. Et donc, il y a des reflux gastriques en permanence dans ce livre.
Patricia.
Moi, je n'ai pas vu les reflux gastriques. Moi, je trouve que c'est un merveilleux livre qui, effectivement, comme tu le disais, Olivia, on est en terrain étrange. Ça a quelque chose d'assez inattendu avec ce narrateur qui n'aime pas trop l'amour et qui n'aime ni le faire ni l'écrire, finalement. Ça, c'est vrai. Mais les pages sur Belle du Seigneur, les pages sur Anna Karénine aussi, où il parle soit d'un amour dépressif, soit d'une toxicomanie amoureuse. Et je trouve que ça a le mérite d'être un livre reposant, c'est-à-dire pourtant ça vacille, ça tangue à certains moments, mais il y a une évidence de l'amour, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas d'affectation, il n'y a presque aucune prise pour le langage, c'est un état psychique au fond qui ouvre les sens, et il y a une immobilité heureuse, elle c'est ce qu'elle aime là-dedans. Et je trouve que c'est un livre très féministe, parce que lui il est happé par elle. Effectivement, tu le disais, il la dessine, il la désire, là où son mari, parce qu'elle a été mariée, ne désirait qu'une chose, c'est la faire sienne et voir son plaisir par rapport à lui, à ce qu'il lui donne. Ils sont complètement dissemblables, ils ne comprennent rien à ce qui arrive, mais cela advient, point, et le bonheur peut être atteint, point. Et moi, je trouve que
Et les, même ça les passages quantiques des cantiques allongés, ça ne t'a pas...
Pas du tout. Ça aurait dû quoi, me choquer
Non, pas du tout, non.
Non.
Un peu appuyé, disons, un peu redondant.
Un peu dissonant.
Non, je trouvais qu'il y avait une, bon. Il y avait une profondeur, il y avait une puissance, il y avait aussi une douceur. Moi, j'ai beaucoup.
Alors, demandons au grand maître de l'amour de nous dire ce qu'il pense de ce livre, c'est-à-dire Maître Michel Crépu.
Oui, merci Jérôme.
Et je vous en prie.
Je dirais simplement que Jenny pense trop encore à Houellebecq. Dans son existence d'écrivain génie et de quelqu'un qui se confronte avec le roman, il est hanté par l'idée de trouver un chemin parallèle à celui que Houellebecq a su se créer et qui serait la possibilité pour lui de faire mieux que Houellebecq, c'est-à-dire d'arriver à trouver une formule romanesque sur l'amour aujourd'hui, et donc d'arriver à donner au lecteur, sinon une philosophie de l'amour d'aujourd'hui, en tout cas quelque chose qui ressemble de très près à ça. Il se trouve que Houellebecq est arrivé. C'est comme ça, et ça peut ne pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais c'est un fait que Houellebecq a décroché la timbale sur ce terrain-là, sur ce terrain bon, de...
Sur d'autres terrains aussi.
Sur d'autres terrains, mais oui, mais le terrain de l'amour est le terrain le plus décisif, où les enjeux sont les plus forts. Et là, je trouve que l'entreprise de génie est tout à fait touchante, tout à fait honorable, plus que ça même. Mais ne peut pas se défaire d'un certain chagrin, d'un certain malheur, à mener la bagarre, à mener le combat jusqu'à un terme qui n'est pas atteint encore.
Pour paraphraser Nourricier, toi, c'est plutôt à défaut de génie, quoi, si je comprends bien.
Il y a un jeu de mots, là.
C'est La beauté dure toujours, et c'est chez Gallimard.
Ne regarde pas de cet
extrait. C'est le nouveau roman d'Alexis Génie. Mais on ne voit plus nos bouches, Patricia, on ne voit que nos yeux. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes masqués, plumés, mais aussi masqués. Amour, toujours. Vous avez vu comme cette émission est bien...
Oui, c'est
bien conçu, hein, il y a un fil conducteur.
Amour, toujours avec James et Nora. Encore plus bref récit, 90 pages. Vous êtes heureux, hein, ce soir. De la grande écrivaine irlandaise Edna O'Brien, traduit chez Sabine Vespisser par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dosa, qui d'ailleurs signe une très très bonne postface, je trouve, au livre. On les signale pas toujours, la postface est remarquable et passionnante. Et c'est le portrait du couple James Joyce et Nora Bernacle, une fille de la campagne, originaire de Galway, que l'écrivain a rencontrée à Dublin en juin 1904, c'est-à-dire la date exacte, pour ceux qui s'en souviennent de l'action d'Ulysse. Nora, qui est une femme de chambre dans un hôtel, le couple va partir pour Zurich, puis Trieste, aura deux enfants, une vie sexuelle, je cite, flamboyante, connaîtra la misère, traversera des crises violentes. Alors, il faut rappeler qu'un ami de Joyce lui a fait croire qu'il avait été l'amant de Nora, mais n'empêche qu'il restera ensemble, ce couple, jusqu'à la mort de Joyce en 1941. Et on voit bien que Edna O'Brien a beaucoup puisé dans les brûlantes lettres à Nora, qu'on trouve toujours, ça je le dis parce qu'elles sont incroyables,
en poche,
dans la collection de poche des éditions Rivage. James et Nora, Michel.
Tu parles de ces lettres qui avaient été publiées à l'époque, enfin à l'époque. La première édition française de ces lettres, c'était dans Tel Quel, à la fin des années 80.
Mais c'est pas celle que j'ai relue en poche chez Rivage. Je crois que c'est une.
C'est les mêmes.
Il n'y a pas eu une version édulcorée au départ.
J'ai pas vérifié.
Non, c'est les lettres pornographiques.
Ah oui, elles sont très très chaudes.
Elles sont tout à fait étonnantes.
On n'a pas les réponses d'ailleurs.
Non, on n'a pas les lettres de Nora.
Non. Mais je me souviens, je suis resté.
Si je crois qu'elles ont pardon, mais je crois qu'elles ont disparu, ou alors qu'elle n'a pas voulu.
Qu'elles soient éditées.
Qu'elles soient éditées parce que.
Oui, elle lui a répondu et il avait l'air très content de ses réponses. Ouais.
Mais j'ai gardé un souvenir très étonnant de cette lecture. Et ce qui est frappant là, ce qui est passionnant, je trouve, c'est d'abord le texte d'Edna O'Brien. Je ne pensais pas que Edna O'Brien pouvait être aussi ferrée sur Joyce, parce que vraiment, c'est
un compatriote.
Oui,
c'est
oui, mais en même temps, c'est son univers romanesque n'est pas un univers joycien.
Non, mais son roman Une fille de la campagne est très proche de ce qu'a été Nora.
Absolument.
Tout à fait. Et là, je trouve ce qui est passionnant dans ce recueil, c'est que le texte d'Edna O'Brien va très bien avec le texte qui suit.
La postface de
la postface.
De oui, Dauzat.
De Pierre-Emmanuel, Dauzat,
qui est aussi.
Et sur la langue de Joyce.
Le yiddish de Joyce.
Voilà.
C'est une façon, je trouve, très belle de donner à lire que le texte, l'écriture de Joyce est une écriture vraiment de l'érotisme le plus près qu'on puisse imaginer de la réalité du sexe. De ce point de vue, je trouve très impressionnant le livre d'Edna O'Brien, parce qu'il est...
Tout en étant très modeste, parce qu'elle ne cherche étant, pas à faire une fresque.
Exactement, elle a réussi ce très peu de... Il y a beaucoup d'essais sur Joyce, naturellement, mais il y en a un qui se rapproche de celui d'Edna O'Brien, que je signale en passant, qui a été réédité aussi par Actes Sud il n'y a pas si longtemps, de Jacques Mercanton, qui s'appelle Les Heures de
Joyce. Il y a quelques années, Mercanton avait été l'ami de Joyce en Suisse.
En Suisse, à la fin, dans les dernières années.
Ils se promenaient ensemble au bord du lac.
Extraordinaire livre, et qui
je suis bien d'accord avec toi.
Qu'on retrouve avec Dauzat.
Mercanton, qu'on ne connaît pas assez bien d'ailleurs en France. Arnaud.
La dernière émission, on parlait à propos de Kundera, des femmes d'écrivains, hein, Vera Kundera, Vera Nabokov, mais voilà une femme d'écrivain extraordinaire. Nora, c'est...
Mais t'as raison, parce qu'elle a connu l'exil comme la femme de Kundera. Hein.
Oui, mais à la différence, elle n'est absolument pas dévouée à son mari écrivain, elle est dévouée à James, à Jim. D'ailleurs, elle est la seule à pouvoir l'appeler Jim. C'est aussi le rapport avec Solaire, évidemment. Donc, mais c'est un dévouement, mais elle n'a pas lu Ulysse. Il était furieux, lui, d'ailleurs.
Livre, d'ailleurs.
À tort, il était furieux, mais elle n'a pas lu Ulysse. Et elle n'est pas la seule, hein.
Non, donc, personne n'a lu.
Mais c'est ce rapport-là. Et en même temps, elle l'a suivi dans cet exil. Ils ont été, quand même pauvres, comme des pierres, hein, pendant très longtemps.
À même un moment, c'est la misère absolue.
Voilà.
Misère.
Elle détestait l'Italie. Elle parlait 25 mots d'italien. Elle repensait tout le temps à son Irlande natale. Et pourtant, elle est restée et elle était folle amoureuse. Et il était fou amoureux d'elle. Donc il y a vraiment une magnifique histoire. Je trouve le texte de Edna O'Brien absolument parfait, parce que il parle finalement de, non pas de Joyce, non même pas de cet amour, il parle de la langue. Là, pour le coup, c'est pas Alexis Génie, James Joyce.
Ou la postface de Dauzat.
Il se défie pas du langage, au contraire. Il est dans un érotisme plurilinguistique. Et donc, elle va rechercher des mots, à la fois dans Ulysse, mais surtout dans Finnegan's Wake. Donc, le texte est très beau, parce qu'il est Joycien dans son essence, il est très court, hein. Mais il donne vraiment, moi aussi, hein, j'ai pas lu Ulysse, j'ai fait que des approches, je veux bien le reconnaître. Et pareil pour Finnegan's Wake. D'ailleurs, il me donne, bizarrement, Edna O'Brien me donne plus envie d'aller regarder du côté de Finnegan's Wake.
Le texte d'Edna O'Brien est plus près de Finnegan's Wake.
Oui, que d'Ulysse.
Lisez en poche ces lettres à Nora, hein, ça coûte rien.
Oui, ça,
rien.
C'est
inoubliable.
Extraordinaire. Et surtout, mais c'est de la pornographie. Il faut être clair. Mais
c'est pas de la pornographie, c'est des textes très érotiques.
Et il y a une histoire magnifique que raconte Dauzat, c'est comment le dernier mot d'Ulysse, qui est donc oui, a été inspiré par Eric Satie, puisque le traducteur français était proche d'Eric Satie, qu'Eric Satie terminait toutes ses phrases par oui, et il a dit à Joyce, tu devrais terminer ton livre par oui, ce que Joyce a admis, et il a changé, y compris dans la version anglaise d'Ulysse. Mmh. C'est une histoire très très belle.
Olivia.
Oui, c'est un exercice d'admiration, parce que moi, pour avoir beaucoup lu Edna O'Brien, que j'adore, Joyce est vraiment l'écrivain qui lui a donné la liberté de devenir elle-même écrivaine. Rien n'était...
Tout en étant écrit, littérairement son opposé. Hein.
Absolument. Mais il lui a donné la liberté, parce que rien n'était écrit dans le destin d'Edna O'Brien pour vraiment devenir cette immense auteure qu'elle est aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la gratitude dans ce texte. Oui. Et puis quelque chose de l'ordre... presque du mimétisme. Elle marche dans ses pas, elle marche dans ses phrases. Je trouve qu'il y a quelque chose de très exaltant, en fait. Et puis, il y a la misère. Elle raconte extrêmement bien comment les dents pourrissent, comment son âme pourrit, comment ils dorment tête bêche.
Et ils font quand même un enfant.
Oui.
Ah, ça, c'est le mystère pas comment... de la création.
C'est le mystère de l'amour. Mais pour ne pas avoir d'enfant, tellement ils sont misérables. Après, c'est vraiment l'histoire éternelle de l'homme qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas son genre. Mais la question... Et je trouve que Edna O'Brien, elle pourrait presque se mettre dans la peau de Nora pour faire un autre roman. C'est, est-ce que lui était son genre? en fait, on ne saura jamais, puisque elle se soumet à toutes ces fantaisies érotiques voraces, mais elle ne comprend rien à cet homme. C'est absolument stupéfiant, moi,
ni
je trouve.
Ni à l'écrivain qu'il est.
Ni à l'écrivain, bien sûr, rien à l'écrivain. Je trouve que c'est très, très beau.
Patricia.
Moi, je trouve aussi que c'est très, très beau et c'est époustouflant sur le, c'est une prouesse littéraire pour moi. C'est vraiment dire autant de choses et avoir compris tellement de choses et le dire en si peu de pages. C'est Lacan qui, au sujet du, en lisant les lettres qui ont été publiées donc de lui à elle, de Joyce à de James à Nora, qui dit au sujet du couple, je dirais que c'est un rapport sexuel, encore que je dise qu'il n'y en ait pas. Donc évidemment c'est une phrase un peu abyssale qu'on peut interpréter comme on veut. Oui, mais je pense aussi que cette femme, elle a ramené Joyce à sa condition d'homme de chair. Il y avait tout pour l'entraver, c'est-à-dire cet homme, au fond, a vécu, peut-être il a vécu aussi pour ses enfants, oui. D'ailleurs il a décidé de se marier avec elle pratiquement pour les enfants, il adorait, il avait une passion pour sa fille.
Ce qui est le contraire du couple Kundera-Vera.
Exactement, mais elle était, c'est ce que Edna O'Brien écrit, elle était un appel à son sang. Donc je crois qu'il y a là certainement une vérité à trouver, et elle, au fond, il lui permet quand même d'être, c'est-à-dire qu'ils sont à pied d'égalité. C'est pas un amour à la Henry Miller et Marilyn Monroe avec l'un qui méprise l'autre. Je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de considérations de part et d'autre. Et quand il lui dit aime-moi, aime mon parapluie, je trouve que c'est vertigineux. Oh oui, enfin écoute, là, c'est vraiment toi qui as l'esprit mal tourné.
Bah non.
Enfin bref,
ça s'impose,
d'accord. Enfin, il y a un impondérable dans cet amour et un besoin de l'un pour l'autre. Jérôme Garcin, vous me décevez beaucoup.
James et Nora, c'est donc Edna O'Brien. Voilà encore un livre qu'on vous conseille de lire. C'est chez Sabine Vespisser. Amour toujours, avec, d'ailleurs c'est le titre, avec le journal amoureux, 1951-53, tenu par Benoît de Groult et Paul Guimard, chez Stock. Les dates du titre d'ailleurs sont totalement fausses,
oui.
Hein, je le dis en préambule, parce que en fait il a été rédigé à quatre mains, ce journal, à partir de 1959. Il venait de faire, enfin le couple venait de faire un tour du monde sur le yacht d'un richissime homme d'affaires, qui s'appelait Maurice Solvay. Bref, Paul Guimard, prix interallié 57, pour Rue du Havre, et Benoît de Groult, qui elle n'avait pas encore publié, ça qui est intéressant, décide donc de rédiger ce faux journal, une manière assez d'ailleurs élégante pour le mari, déjà écrivain, d'offrir à sa femme de le devenir, comme l'avait prévu Paul, estime Blandine de Caunes, qui est la fille de Benoît de Groult et de Georges de Caunes, dans la préface. Ce galop d'essai a permis à maman d'oser enfin se lancer. Et donc, dans ces pages, Benoît de Groult, qui est journaliste à l'époque à la radio, clame haut et fort son féminisme. Elle entend bien ne pas être gouvernée par son mari. Elle passe son permis de conduire. À l'époque, c'est audacieux. Elle s'offre une 4 chevaux. Après, le luxe, ce sera de s'offrir une Aronde. Pour ceux qui s'en souviennent, elle cultive son jardin du Val d'Oise où elle a raison beaucoup beaucoup de crottins de cheval, très important. Et elle lit le Marquis de Sade tout en râlant. Je la cite :« Je cumule les fonctions de nurse, cuisinière, femme de ménage, laveuse, journaliste et épouse. » Et pendant ce temps-là, Guimard, le futur auteur des Choses de la vie, court les studios de radio et de cinéma. Il flirte avec une certaine Marie-Claire, dont Blandine de Caunes nous glisse qu'il a été l'autre grand amour de Guimard. Il écrit des poèmes, parce que quand il en a marre de faire son journal, il écrit des poèmes. Il lit Fantomas, il lit La Série Noire.
Marie idéale.
Drôle de couple. S'il construit des WC dans le jardin. Elle, tout à fait du côté de Beauvoir, hein, et lui, du côté, je dirais, de Giraudoux. Voilà, journal amoureux 51-53. Olivia.
Il lit les 31 tomes de Fantomas. Oui. Cet homme ne fait rien.
C'est ce qu'il dit. Hein.
C'est elle qui le dit, je crois.
Et il fume beaucoup.
Et elle dit, heureusement qu'il n'y en a pas plus, parce que sinon, il aurait tout lu. Moi, j'ai trouvé que c'était totalement réjouissant. Le principe me semble surréaliste d'écrire un journal avec... Un faux journal avec votre amant, compagnon, mari, tout en sachant qu'il va être lu. Parce qu'il y a une tradition littéraire chez les Groult, où la mère de Benoît et Flora les avait encouragés enfants à écrire un journal intime.
Alors Flora, c'est la sœur.
La sœur de Benoît.
De Benoît.
Exactement. Avec laquelle elles ont écrit ensuite un journal,
mains qui a fait leur succès. Et la mère encourageait les petites filles à écrire en leur disant, il y a deux choses importantes dans la vie, il faut se laver les dents et lire à haute voix son journal pour justement faire éclore votre talent. Donc il n'y a absolument aucune intimité. Et ce qui est intéressant dans le journal, c'est que très vite, en fait, il devient une sorte de dialogue entre les deux parties adverses, puisqu'il s'appelle comme ça.
Paul Guimard est mécontent de découvrir qu'elle lit ces passages comme s'il était indiscret, quoi.
Oui, mais alors l'intimité chez les Groult, ça n'existe pas. Je me souviens très bien de Blandine de Caunes qui me racontait qu'elle lisait elle-même le journal de sa mère, que sa mère lisait le sien, qu'elle lisait celui de sa sœur, Lison, que vraiment l'intimité n'existait absolument pas dans cette famille-là. Après, il y a deux choses vraiment passionnantes, c'est l'éveil du féminisme de Benoît de Groult. Je regardais les dates quand même et je cherchais quand est-ce que les femmes avaient eu le droit d'avoir un compte en banque. C'est seulement en 64. Oui, donc là, vraiment, les femmes, elles n'ont droit de rien, sauf de commencer à travailler. Et là, elle a cette formule géniale, Benoît de Groult. Elle dit, ok, on a le droit de travailler, mais finalement, quand on déserte le domicile, l'homme au foyer... n'a pas l'idée de recoudre un bouton ou de faire des tâches ménagères.
Il faut dire qu'avec Guimard, elle est bien tombée. Il ne fait rien.
Et donc, elle a cette formule géniale. Elle dit, finalement, la femme a gagné le droit de faire des heures supplémentaires.
Oui.
Je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourrait mieux résoudre. C'est en même temps le portrait d'une époque, parce qu'on voit vraiment un couple qui part au sport d'hiver, qui va au cinéma, voir le fleuve.
Qui va en Bretagne.
Il y a des passages qui sont quand même aujourd'hui hautement politiquement incorrects. Quand elle cherche un dentiste pour ses filles, mais qu'elle veut absolument qu'il ait un nom bien français, je pense que ce genre de choses ne pourrait plus s'écrire aujourd'hui. Et heureusement, et ma grande découverte, c'est Paul Guimard. Je dois dire que je suis pas très forte en Paul Guimard, je suis très forte en Benoît. Mais Paul Guimard, génial, qui écrit Blandine dans sa préface, lorsqu'il arrive à l'Élysée où il est conseiller de François Mitterrand, il faut remplir un petit formulaire avec tes écoles, tes études. Et lui, il barre tout, il n'a pas son bac et il écrit juste « c'est lire et écrire » en disant qu'après tout, c'est ça qu'on lui demande puisqu'il va devoir écrire les discours.
On connaît évidemment les choses de la vie.
Qui ressort en ce moment d'ailleurs, qui est réédité chez De Noël.
Mais si vous ne connaissez pas Guimard, lisez le dernier petit livre de Guimard, le dernier chez Grasset, qui était consacré à Giroudoux, et qui est une merveille de virtuosité, d'éloquence, je ne sais pas si tu l'avais lu à l'époque, et qui montre aussi très bien qui était Guimard.
Mais là, c'est vraiment une merveille d'esprit, d'humour, de mauvaise foi, de fainéantise, en fait, tout ce qu'ils veulent,
et
lui,
déjà
c'est...
d'infidélité, puisque, en fait...
Oui, mais elle aussi,
On verra avec le journal irlandais...
Exactement, quand elle retrouve l'amant américain Court. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que oui, lui, ce qu'il veut, c'est en fait une pièce bien chauffée et un repas chaud.
Il veut être peinard.
Le reste,
c'est ça.
Rien du tout. Mais en même temps, c'est un éloge du couple, parce que l'un et l'autre le disent chacun à leur manière. C'est la seule aventure qui en vaille la peine.
Moi, je trouve que, en parlant de Paul Guimard, je pense qu'on fait plaisir à Blandine de Caunes, qui précisément dans sa préface regrette qu'il ne soit pas plus connu, qui lui fait aussi une déclaration d'amour. Elle l'a aimé comme un père.
Oui, enfin, c'est magnifique. À ce beau-père qui était en fait un père.
C'est ça qui a
été. Elle veut l'épouser.
Elle veut l'épouser quand elle dit à sa mère. Mais quand tu mourras, tu pourras l'épouser. Bon, enfin, c'est assez drôle. Non, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit ce parcours de féminisme, à la fois une femme qui est très déterminée et qui en même temps accepte par la force des choses ce qui lui est imposé à la maison. Mais lui, en fait, il a rien contre. C'est pas contre les femmes, c'est parce que c'est une question d'éducation et c'est un homme old fashioned, quoi. C'est-à-dire qu'il regarde, il est pas pour les suffragettes, il va pas les soutenir, mais il regarde et il laisse venir. Et il croit profondément, en revanche, ça l'empêche pas du tout de ne pas croire à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il pense même que c'est la seule aventure qui justifie tous les risques. Donc bon, il faut venir un petit peu à sa rescousse. Et il y a un très beau moment, je trouve, où il feuillette un agenda, parce qu'elle écrivait vraiment tout ce qu'elle faisait, de façon presque comme dans un journal, sur son agenda, et il voit un agenda qui date d'avant leur couple. Et c'est merveilleux parce que il découvre une autre femme et il a une espèce de d'élan d'amour pour elle absolument extraordinaire à ce moment-là.
Arnaud.
Oui, moi aussi j'ai découvert Paul Guimard qui m'a beaucoup plu. Je pense que le féminisme n'existerait pas sans Paul Guimard d'une certaine manière. Hein, je veux dire, c'est qu'il a. C'est vrai. Comme il ne fout absolument rien.
Écoutez, il rirait d'un grand éclat.
Ouais. Et donc j'adore.
Il a envie d'être féministe.
Il adore les westerns, mais il y a une page formidable où il dit je n'ai ai ras-le-bol de ces westerns. C'est la nouvelle mode. C'est l'Indien est rétabli dans ses droits. C'est plus les premiers westerns où c'était un pur sauvage. Là, soudainement, il pense, il dit maintenant l'Indien va voir son psychanalyste. Là, c'est plus possible. C'est western. C'est tellement drôle, cette page. Et ces poèmes sont tellement feignants. Il y a une feignantise absolue.
Aussi feignants que ceux de Houellebecq.
Toutes ces interventions sont d'une feignantise absolue.
Ça lui permet de se cacher un peu.
C'est vraiment le roi de la paresse et je l'adore.
Quelques mots, Michel.
Oui, c'est pas que l'intimité n'a pas de place dans ce livre. C'est simplement qu'il n'est pas nécessaire de fermer les volets pour que l'intimité s'installe. Moi, c'est ce qui me bluffe dans la lecture de ce livre. C'est l'espèce d'équilibre parfait qu'il y a entre le sérieux et le plaisir. Enfin, il y a une espèce de... C'est aussi un trait d'époque, ça. On pense ce que l'on fait. Enfin, on est capable de le justifier intellectuellement. On sent que la bibliothèque est pas loin derrière. Et ça se retrouve dans le texte de ce journal amoureux qui est très frais, à la fois sérieux et frais.
C'est frais qui n'a pas la force, à mon avis, la puissance, ni l'audace qu'avait le journal irlandais, journal amoureux de Noël Groot, qui lui, pour le coup, allait beaucoup plus loin. Et c'est vrai que c'est, en revanche, si on est sensible à cette époque, c'est une photographie de la fin des années 50, tout à fait étonnant. Journal amoureux 51-53, c'est Benoît de Groult et Paul Guimard. Et c'est chez Stock, et on termine rapidement avec Commodo de David Vann, un écrivain dont on a souvent parlé au masque, traduit par Laure Derajinski. C'est aux éditions Gallmeister, l'auteur de Sequoia Island, qui avait le prix Médicis étranger en 2010, qui est américain, qui est originaire d'Alaska, nous emmène avec ce roman sur l'île indonésienne de Komodo, de Tracy, l'héroïne, une ancienne biologiste, que son mari argentin délaisse et que ses jumeaux de 5 ans épuisent, on la comprend, quitte la Californie pour retrouver, en compagnie de sa mère, son frère aîné Roy, un écrivain divorcé qui aspire à devenir moniteur dans un centre de plongée sous-marine. Elle veut des vacances, elle veut nager au milieu des coraux et même des raies mantas. Et pourquoi pas une aventure avec un joli garçon qui est incarné ici par le français Loïc. Vous avez remarqué que c'est toujours les aventures avec des jolis français. Mais le rêve va tourner au cauchemar, je ne vais pas en dire davantage. Ou d'ailleurs la gentille Tracy va montrer un visage beaucoup moins aimable. Voilà, ça commence comme une comédie, ça se termine presque au seuil de ce qui pourrait être un roman. Non, tu n'es pas d'accord
moins aimable, c'est-à-dire pas politiquement correct, quoi. Elle pense des choses qu'une femme ne devrait pas penser, dont on se dit qu'une femme ne devrait pas les penser.
Voilà.
Non, mais je traduis ta pensée. Parce que c'était pas très
merci, bien. Mais heureusement que tu es là, parce que sans toi, je ne pense pas que
mais
je serais compréhensible.
Je ne serais rien.
Je dirais même que sans toi, je ne serais rien.
Mais exactement. Je ne serais rien. Je pense la même chose, on est sur la même longueur d'onde.
En train de disparaître devant toi.
Totalement.
L'ombre de ton chien.
Bon, tu peux me dire pas trop longuement ce que tu penses.
Pas trop longuement, moi, c'est un homme que j'adore, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais alors qu'on n'a évidemment pas du tout la même vie, mais moi j'ai l'impression d'appartenir à la même fratrie. J'aime sa façon de voir le monde. Je trouve que d'avoir pris la plongée comme exemple, c'est absolument formidable parce que c'est une métaphore de l'existence absolument incroyable. C'est à la fois très dangereux, en même temps on devient vite addict. On n'a qu'à penser à Jacques Mayol, par exemple, qui a été l'un des modèles pour le Grand Bleu. C'est à la fois une fuite, une illusion. On ne sait pas si cette femme, je la trouve en même temps extraordinaire. Je ne sais pas si c'est vraiment le portrait de sa sœur, s'il a une sœur comme ça, si c'est son double à lui, j'en sais rien, mais elle est plus vraie que vraie et elle fait remonter des réalités, précisément d'une puissance affolante, même par rapport à, enfin, dans ce qu'elle dit.
Je pense, c'est un point, la
maternité.
En colère, hein.
La colère peut aller très loin, elle peut aller jusqu'à. Voilà.
Non.
Mais elle est très attachante et malgré tout, je trouve, la mère aussi est formidable. Le personnage de la mère est absolument fantastique. Alors moi, c'est un livre que un de plus de David Vann.
Michel, qui était à un moment moniteur de plongée sous-marine.
Oui, 2010.
Près de la Seine, non ?
Le monde des requins ne m'est pas inconnu.
Oui, mais les requins passent pas très loin.
Je ne suis pas follement partant pour passer du temps au milieu des requins et des raies mantas. Le côté documentaire animalier pour psychopathe ne me tente pas, en fait. Voilà. Donc, je ne connaissais pas cet écrivain.
Ah ouais, mais il faut que tu lises le livre qu'il a écrit sur son père.
Il y avait un livre, genre livre d'écrivain voyageur, qu'il avait fait. Et vous aviez été assez sévère au masque, ça m'avait surpris d'ailleurs.
Voilà, donc j'y reviendrai, mais...
Mais pas là.
Non, pas là. La
prochaine fois, peut-être.
Là, tu bois la tasse. Arnaud.
On retrouve un peu le David Vann de son premier livre, Suck Van Island, qui était terrifiant. Là, on ne peut pas raconter, évidemment, il ne faut pas raconter, mais c'est tout à fait surprenant la manière dont se déroule le livre, et la fin est absolument... C'est les dents de la mereux, quoi, tu sais. Mais on voit bien les requins arriver, hein, mais en fait, ça se passe absolument pas comme on le pense en tant que lecteur. On se dit, ah, voilà ce qui va se passer. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est assez drôle, hein. C'est assez féministe aussi, hein. C'est passablement féministe. Il y a une réflexion sur le divorce, vu comment il se passe pour les hommes et comment il se passe pour les femmes. C'est assez plus subtil que ça. Je pense qu'il y a un fond de vérité. Je pense que lui, il est l'écrivain devenu moniteur de plongée, qu'il parle réellement de sa sœur. Enfin, on sent qu'il y a un substrat autobiographique. Voilà, c'est plutôt un très bon David Vann, parce que il en a écrit beaucoup, il y en a qui sont effectivement moins bien. Van Island, il faut absolument le lire. Il y a une beauté quasiment conradienne dans Suck Van Island. Là, c'est plus fun d'une certaine manière, c'est plus léger, hein, tout en étant.
C'est pas léger. Ça pourrait faire un bon film d'ailleurs, entre parenthèses.
Ouais. Oui, c'est Olivia. Ça qui m'a gêné.
Alors moi, je déteste les livres de David Vann, hein, parce que je déteste. Je l'ai dit à Oliver Gallmeister, hein, souvent, parce que je trouve qu'il a une manière de traiter avec une sorte de sensationnalisme, oui, de rebondissement, de retournement, des sentiments délicats qui méritent d'être traités avec une autre sensibilité. Donc vraiment, je déteste. Alors celui-là, je l'ai plutôt moins détesté que les autres, je dirais, parce que le côté « dents de la mer » MER, au début, m'a beaucoup plu. Moi, nager avec les requins, c'est tout ce que j'aime. Je l'ai fait une fois, j'ai eu la peur de ma vie, mais j'ai adoré.
Où ça ?
C'était à Cuba, à côté de Cuba. Enfin, au large de Cuba. Et je trouve que tout le début sur cette espèce de petit club de plongée minable avec les gens qui se détestent, oui, la bouffée dégueulasse, il y a des rapports de pouvoir comme ça entre les gens. J'aime bien la manière qu'elle a d'aller avec ce petit français. Bon, après, moi, je ne comprends absolument pas pourquoi elle est enragée contre son frère qui a divorcé.
Oui, oui.
Alors là, incompréhensible. Et la deuxième partie du livre, Les dents de la mer, eux, alors là, écoutez, on l'a lu 150 fois en ce moment. Oui. Les mères qui pètent les plombs, qui détestent leurs enfants, tout ça, il y en a ras le bol. On comprend pas pourquoi elle est tellement en colère. Ouais, bah, soit elle divorce, soit elle prend une nounou, mais enfin
si,
bon.
Il y a plein de détails très marrants.
Non, alors
son
moi,
mari,
je ça...
son mari qui travaille avec une contorsionniste, c'est hyper drôle.
Moi, je trouve qu'on n'y croit pas du tout. Ah, et bon, tout d'un coup, on retrouve le côté sensationnel de David Vann. Qui me casse
non,
les
c'est
pieds.
Pas sensationnel, c'est Komodo. Explosif.
Il oui, bah, explosif, c'est ça, explosif.
Komodo, c'est David Vann et c'est aux éditions Gallmeister. Allez, un conseil pour terminer cette émission, on va commencer avec Olivia.
Ben, je crois que c'est un livre dont on parlera au mois de juin, mais je viens de le finir et je suis proprement exaltée par sa lecture. Ce sont Les Canoës de Maëlys de Kerangal.
On va en parler absolument dans 15 jours, je crois. Oui, c'est ça.
Bon, alors voilà, je vous dis juste, elle explore...
Ce sont des nouvelles, hein.
Voilà, ce sont des nouvelles, mais elle a toujours des projets littéraires très architecturés, Maëlys de Kerangal. Ce sont des nouvelles qui forment un roman en morceaux ou en pièces détachées qui interrogent tous la voix humaine, V-O-I-X. Donc ce sont des femmes à la dérive qui cherchent à se raccrocher à la voix humaine des êtres aimés. Écoutez, c'est d'abord, je pense que en matière d'écriture, c'est la plus grande. Et en matière d'émotion, le côté performance de l'ouvrage ne gêne jamais l'émotion. Il y a une grande nouvelle au milieu qui s'appelle Mustang. C'est éblouissant.
C'est Maëlys de Kerangal, c'est chez Vertical, et on va en reparler très bientôt génial. Dans Le Masque et la Plume, Arnaud.
Un premier roman chez Gallimard de Camille Goudot, c'est une jeune femme qui s'appelle Les Chats Éraflés. C'est une jeune femme qui est bouquiniste sur les quais de Seine, et en fait elle raconte ça, c'est l'histoire de Soisy qui a grandi près de chez moi, dans le Chinonnet, dans le splendide Chinonnet, et qui monte à Paris pour retrouver sa mère. Elle a été élevée par ses grands-parents, elle ne connaît pas sa mère, elle monte à Paris, et de fil en aiguille, elle va devenir ce qu'on appelle ouvre-boîte, c'est-à-dire assistant des bouquinistes des quais de Seine. Et c'est un livre livre qui raconte déjà cet univers très particulier des bouquinistes. C'est merveilleux parce qu'on apprend plein de choses sur les courtiers, sur le fait de travailler comme ça en pleine rue. Hein. C'est pas uniquement du romantisme. Et c'est vraiment, il y a une manière merveilleuse. Et c'est pas simplement ça, il y a des personnages. C'est aussi la découverte de Paris par quelqu'un qui vient de province. Et ça a une beauté, ce charme, il y a un vrai charme, une vraie beauté dans ce premier roman qui fait penser un peu à du Pierre-Marc Orland d'aujourd'hui, je trouve.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est le titre, tu le redonnes.
C'est Les chats éraflés de Camille Goudot chez Gallimard.
Très beau.
Ouais. Mon conseil, il devrait plaire en particulier à Patricia et Olivia, peut-être aux garçons. Ça s'appelle Dame de cœur et d'ailleurs. C'est de Jean Chalon et c'est aux éditions de la Coopérative. Parce qu'il était jeune journaliste au Figaro littéraire, c'était dans les années 60. Chalon a été le confident, le chevalier servant, j'allais dire l'escort boy, de très grandes salonnières et amazones. Il y avait Nathalie Barnet, il y avait Florence Gégould, il y avait Louise de Villemorin, la princesse Bibesco, Marguerite Yourcenar, Anaïs Nin et même Violette Le Duc. Et donc, il rassemble toutes ces femmes qu'il a rencontrées et qui disent... Elles sont drôles, elles sortent des méchancetés comme c'est pas permis, notamment Yourcenar sur Julien Green. C'est drôle, c'est édition, c'est très champagnisé évidemment, avec en prime des portraits de George Sand et de Colette, dont Chalon a été l'excellent biographe. Voilà, donc Dame de cœur, et d'ailleurs c'est Jean Chalon, c'est à la Coopérative, et je l'offre en particulier à mes deux dames de cœur de ce soir, Olivia et Patricia.
Oh, merci.
Le conseil de Patricia.
Alors, le modèle n'est pas original, mais le livre, je vous assure, l'est. C'est sur Napoléon, ça s'appelle Napoléon, punk, dépressif, héros. C'est sur les années corses de Napoléon où il a quand même passé la moitié de sa vie puisqu'il est mort très jeune. Il est resté encore jusqu'à 24 ans à peu près. Et c'est finalement, ça montre très bien ce rebelle.
Parce que la couverture est assez drôle.
Ah bah oui, il a une...
On peut pas la montrer à la caméra, mais c'est assez drôle.
Il a une coiffure à l'iroquoise, oui, mais c'est tout à fait l'esprit du livre. D'ailleurs, l'auteur lui-même est corse et il dirige les collections napoléoniennes du musée du Palais Fraîche à Ajaccio. C'est un livre qui déménage et qui montre que les fêlures du soldat qui viendra un grand homme auraient pu s'agrandir encore. Et puis comme c'était ce loser était aussi un transgresseur et qui à un moment donné a pris sa vie en main, eh bien son destin est devenu tout à fait autre. C'est un livre formidable et c'est aux Équateurs dans la collection Histoire.
C'est très bien de le conseiller parce que comme il y a 3500 livres qui paraissent sur Napoléon,
exactement.
Au moins là on est guidé. Michel, pour finir.
Pour finir, alors moi je vous ai apporté une revue.
Épaisse. Hein.
Qui est en librairie
qui est en librairie.
Là, tu peux faire un pari
chez les bouquinistes.
Hein, un annuaire.
Il faut amener sa brouette, mais ça vaut la peine. C'est une revue qui s'appelle Apulée, du nom célèbre d'un poète de l'Antiquité grecque, et qui est magnifique. C'est une revue de littérature et de réflexion, en sous-titre.
Apulée. Jérôme, remets-toi.
Non, mais je me permets de vous le signaler quand même avant qu'on se sépare. Parce qu'il y a quand même un très beau dossier sur Michel Lebris, le regretté Michel Lebris. Et ça fait plaisir de
l'entendre. Ça vous fait. C'est pas drôle, il est mort.
Non, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est drôle. Et puis, il y a un cahier photo qui est très beau. Et en venant à l'émission, là, je lisais. Voilà. Non, franchement,
tu disais quoi en venant à l'émission? Je parle à la place de Jérôme qui ne peut plus parler.
Il peut plus parler.
Merci Michel, tous ces conseils.
Je t'en prie.
Ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Patricia, Martin, Michel Crépu et Arnaud Vivian pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au théâtre de l'Alliance française, à la technique, il y avait les indispensables Julie Garraud ainsi qu'Étienne Collin pour une réalisation signée de l'indispensable Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.